prendrait bien tous dans les bras, mais pas eu le temps de dire bonjour, on est arrivé un peu à la bourre. Je me suis chronométré, je mets 12 minutes. Ça va, c'est cool, c'est cool. Alors, on y va. Moi, je me suis repassé cette scène encore et encore et encore, avec cette même question. Père, quelle perle tu veux offrir à tes enfants aujourd'hui ? Et cette question, pour moi, elle est centrale. Alors, j'ai fait trois choses. J'ai écouté, et après j'ai écrit. Alors simplement, respirez, fermez les yeux si vous avez envie, et simplement écoutez sa voix, écoutez ses paroles. Parce que de vous à moi, je pourrais vous parler de beaucoup de sujets, sans prétention, mais vous raconter des histoires intenses, des... mes dernières expériences un peu extrêmes, des témoignages forts et profonds, mais au fond, la seule chose que je veux vous transmettre, au-dessus de toutes ces choses, encore cet après-midi en 10 minutes, c'est son appel à le rejoindre dans l'intimité. Son appel à le rejoindre dans l'intimité. Rien, absolument rien n'équivaut, n'a d'égal que cet appel. Alors on va s'arrêter ensemble quelques instants. Moi, je le reconnais volontiers, je ne suis pas rassasié. Je vais vous poser une question centrale cet après-midi. Qui ici se sent désespéré ? J'irai même plus loin. À quel point te sens-tu désespéré ? Qui est désespéré cet après-midi ? Désespéré, pas dans le sens littéral sans espoir, mais dans l'idée assoiffé à crever de soif. Mon ami, ne te contente pas d'un verre d'eau. Je t'en supplie, ne te contente pas de tes expériences passées, ni de celles présentes. Qui est prêt à reconnaître sa soif, à l'exprimer? Qui est prêt à dire au fond, moi j'en ai marre, j'en peux plus. Je veux ma percée, je veux mon miracle, je veux changer. J'ai tellement envie de dire autre chose que un ou deux fruits de l'esprit. Je veux tous les porter. Ta soif est peut-être enfouie. J'ai vraiment entendu cet appel. Qui est prêt à hurler sa rage, sa douleur, très loin du politiquement, religieusement correct peut-être? Qui veut faire comme Bartimée? Au secours, Jésus! Viens à moi, aide-moi et pitié de moi. Sauve-moi, change mon cœur, change ma vie. Au secours, Jésus! On parle bien ici d'un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Qui rejaillira sur mon couple, mes enfants, ma famille, mes amis, mon boulot, mon quartier, ma ville, ma famille, bien sûr, mon pays. Au secours! Mes amis, ne pensez-vous pas qu'il nous faut vivre cette désespérance, l'expérimenter, cette radicalité, et commencer par là pour vivre de Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est nous, un s'humilie, deux prie, trois, cherche, il faut chercher sa face. Quatre, se détourne de ses mauvaises voies. Un, je l'exaucerai. Deux, je lui pardonne son péché. Trois, je guéris son pays. L'équation, elle est claire. Je parle ici de réveil, en fait. Pas celui qui viendrait du haut de l'estrade, mais le seul, le vrai, celui qui commence à genoux dans une chambre. Merci, Matt et Olivier, pour l'exemple d'homme à genoux. Je parle ici de nos entrailles, de nos profondeurs, de notre passé qui est là, dans notre présent, de nos blessures souvent enfouies, de nos fonctionnements et dysfonctionnements, conscients et ou inconscients, de nos peurs qui nous empêchent d'avancer, de voir, de nos forteresses de pensée, soyons très clairs, notre éducation souvent stricte, bien comme il faut, de nos héritages spirituels et autres, parfois bons, parfois pas du tout, de nos bagages qui nous alourdissent, de nos faux raisonnements qu'on justifie si facilement, de la culpabilité tapie dans l'ombre, qui jaillit, et qu'on subit et qu'on légitime en même temps, etc. etc. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout ça, c'est intense. Il n'y a pas d'échappatoire. On regarde la vie, on regarde sa vie droit dans les yeux. Alors, ceux qui me connaissent de près savent que tout ça m'obsédait dès l'âge de 19 ans, et je suis rentré dans une forme de violence, de résilience, en prenant au mot, à la lettre, le verset de Jésus qui dit « Cherche et tu trouveras ». Cherche et tu trouveras. Parce que oui, des réponses, des solutions, des clés, des remèdes, tout sauf magique, soit dit en passant, existent. Père n'est pas cruel. Pourquoi sont-ils durs, entre guillemets, à trouver? Pourquoi tant d'efforts pour les découvrir? Parce que c'est ainsi, parce que c'est la vie, et que ça a un coût. Se mettre en route, être vulnérable, demander pardon à son père, à sa mère, à son pasteur, à sa femme, son mari, ça coûte terriblement. Et ça demande du courage, le vrai, celui qui vient du plus profond de nous et qui nous fait avancer malgré l'inconnu et la peur vers la vie. On est attiré par elle, par la liberté aussi. Rappelez-vous, j'aimais les équations très simples. La liberté s'expérimente au contact de la vérité. La vérité est une personne, Jésus. Tu veux être libre, tu rencontres Jésus, tu rencontres la vérité, tu es libre. La première chose à faire, c'est peut-être de reconnaître qu'en fait on ne sait rien, ou si peu. Et que les mots, les phrases, les prières toutes faites, tout fait, arrivent à éloigner de nos bouches, de nos cœurs, les vrais cris, les vraies supplications. Moi je pensais à Abraham quand Dieu me parlait tout ça. À Joseph, à Gédéon, à Pierre. Abraham, Dieu lui a dit, mais quitte ce pays et va dans le pays que je te montrerai. Il lui a pas dit, va dans le pays que je t'ai montré, ou dans le pays que je te montre dans 15 jours, t'inquiète pas. Non, va, d'abord tu vas, et je te montrerai. La confiance qu'il devait avoir en Dieu. Mais s'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Joseph, dans le fond de sa prison, dans le pays le plus occulte du moment, pensez-vous qu'il avait la fin de l'histoire en tête? Non. Est-ce qu'il était là, à l'aise, ça va passer crème? Non, pas du tout. Il y avait une sorte de désespérance que Yahweh vienne à son secours. Gédéon, est-ce qu'il pensait, est-ce qu'il savait que avec 300 bonhommes, il allait pouvoir en tuer beaucoup? Non, il ne savait pas, il n'avait pas la fin de l'histoire. Dieu lui a dit, va y en guerrier. Pierre sur l'eau, Jésus lui dit, viens. Et Pierre ne savait pas que ça était possible. Alors mon ami, cet après-midi, si ces mots te parlent, c'est normal, c'est parce qu'ils ne viennent pas de moi, pas vraiment. Et ils me parlent tellement à moi aussi. La question est, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Moi, j'ai posé la question à Dieu. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je poursuis. Gardons-nous d'attendre passivement une révolution venant de l'extérieur vers l'intérieur. Et en espérant que demain, le monde, la météo ira mieux. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le temps ne guérit que les blessures qui sont soignées. Je répète, le temps ne guérit que les blessures qui sont soignées. Soldat, ne pars pas au front, ne reste pas au front. Au combat, si tu es blessé à mort, viens à l'infirmerie. Viens près de lui, dans l'intimité. Et là, tout est possible. Tout commence à genoux. Il te guérira, il te formera. Vraisemblablement, loin des strass et des paillettes, et tu es devant de la scène. Mais ce qui est important et décisif ne se passe pas là, mais dans le secret de ta chambre. Il veut te former, il veut t'équiper. Mon peuple périt faute de connaissances. Il veut t'équiper, te former. Alors si tu me poses la question à moi, Michel, je peux te parler un peu de mon parcours, te donner des pistes. J'aime transmettre, mais surtout t'encourager à y aller toi-même. Tout le monde a le numéro de tout le monde sur WhatsApp. Et bien sûr, il y a des livres, il y a des séminaires, il y a des retraites remplies de révélations, avec des enseignements bibliques sur notre identité, bien sûr. La guérison, la délivrance, les lois du monde spirituel. Pour ma part, je choisis tout à nouveau devant vous. Le chemin étroit, parce qu'il l'est, nous l'oublions pas. Les larmes et les difficultés font partie de l'ascension. Les larmes et les difficultés font partie de l'ascension. J'ai écrit la phrase suivante, mais elles ne sont rien, le tout est d'aller jusqu'au bout. Violence et résilience. Alors ça commence maintenant par une rencontre. Une nouvelle rencontre, celle d'un enfant avec son Dieu créateur, amoureux de toi. Attention à ne pas dire « ça c'est pas pour moi, ça c'est pour un tel ». Non, 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 non. Ça c'est un mensonge qui est aussi anti-biblique que prompt à jaillir. C'est pour toi, il t'appelle à te rencontrer, à te re-rencontrer. dans l'intimité, dans ton intimité, dans son intimité. Tu es concerné, toi. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu peux voir le sourire de Père? Et ressentir son affection pour toi. Il est un bon Père. Son fardeau est doux et léger. On parle bien de fardeau. On parle bien de fardeau, hein. Mais il est doux et léger. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Alors va. Ta vie ne sera plus la même. J'ai écrit ça. Tu passeras de celle vécue timidement au bord du Jourdain à celle conquérante dans le pays promis. Tu passeras de celle vécue timidement au bord du Jourdain à celle conquérante dans le pays promis. J'ai encore envie de le dire parce que ça me nourrit moi aussi. Tu passeras de cette vie timide vécue au bord du Jourdain à celle conquérante dans le pays promis. Les géants sont réels. Tes limites humaines aussi. Mais la main droite de ton papa aussi. Il l'a promis tant de fois à Moïse, à Gédéon, sur le mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a promis? Il a dit, je serai avec toi. Ce n'est pas une promesse de vie facile. Est-ce que Moïse, il savait comment il allait délivrer le peuple d'Égypte quand il était face au buisson? Mais je suis sûr que non. Il ne savait pas comment ça allait se passer. C'est impossible, un homme, pour délivrer un peuple nombreux dans un pays tout puissant. Comment on fait? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je serai avec toi. Dans ma propre vie, c'est ce que Dieu me dit. Je suis avec toi. Et il me demande d'avancer avec ça. C'est une invitation à une promesse. Viens, va, et je serai avec toi. Viens vers moi. Ça commence par là. Va, je serai avec toi. Qui veut répondre à l'appel et se mettre en marche? Qui veut dire oui, me voici? Voilà, je vous ai délivré ce que j'avais à vous délivrer. Avec beaucoup d'intensité pour moi aussi. Recevez ces quelques mots. Viens, va, je serai avec toi.
Wow. Merci Michel. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci Seigneur. Je vais inviter notre chère Kat. Kat, merci pour ton cœur et ta compassion pour les perdus et pour ceux qui sont dans le besoin. Et que le Seigneur te bénisse abondamment.
Merci. Bon, voilà 10 minutes. Quelques histoires que j'espère vont être inspirantes et motivantes pour au moins certains parmi nous. Je commence par mes années quand j'étais ado, jeune ado. Moi, j'étais passionnée par le gym. Encore peut-être autant que Tamsin, peut-être un peu moins. Donc, mes héros, c'était les gymnastes mondiales qui compétaient dans les championnats du monde, les Olympiques. Une Roumanienne, Lavinia Milosevic, et une Américaine, Shannon Miller. Donc, j'ai passé des heures en train de regarder les enregistrements que j'ai faits sur les cassettes à l'époque. Et j'observais encore et encore les gestes qu'elle faisait. Je voulais imiter le tout, et surtout les performances, et puis après, mettre dans les miennes. Donc, ce que je veux amener à cette petite histoire, c'est le mot « imiter ». La définition, c'est de prendre ou suivre comme modèle. Donc, synonyme, c'est d'émuler, copier, suivre l'exemple d'eux et de modeler. Donc, un peu plus tard, quand j'avais 22 ans, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a vraiment inspirée, jusqu'au point où j'avais envie de ressembler à la qualité que j'ai vue en lui. Cette personne, c'était un Nouvelle-Zélandais, au nom de Greg Janssen. Il était responsable des séjours de ski où je venais juste de commencer un travail dans les cuisines. Donc, il y avait à peu près 80 personnes dans les séjours. Et lui, tant que responsable, il avait l'opportunité de partir avec les vacanciers, les personnes en vacances, tout le matin sur les pistes. Greg, par contre, il a choisi de ne pas faire ça. Une partie de notre responsabilité dans les cuisines, c'était après de faire le ménage dans le chalet. Et donc, il fallait faire les endroits de commun y compris les toilettes. Et en fait, ce que Greg il a fait, en place d'aller faire du ski, il est resté à le chalet et il faisait notre travail de ménage, partout et dans les toilettes. C'est la première fois que je dis « wow ». C'est quelqu'un qui est responsable et il dirige par le service. Et ça m'a vraiment touchée. Donc, depuis ce moment-là, j'ai croisé énormément de personnes qui ont des qualités extra, vraiment supérieures, super et exceptionnelles. J'aimerais bien différencier, par contre, entre les personnes qui ont des qualités qu'on voit en quelqu'un, des bonnes qualités, et une admiration tant que ça nous envoie le désir et la motivation d'être comme eux et de changer. Pendant notre temps à Bedford, il y avait encore une richesse de personnes qui avaient des qualités impressionnantes. Je peux parler de nombreuses personnes qu'on a rencontrées là. Mais avec encore quelques-uns, la relation s'est allée plus loin. Donc, il y a 3 ans et demi, ma vie a changé. Nous sommes arrivés au milieu de King's Arms Project. C'est le ministère pour les personnes qui sont sans-abri à Bedford. Et on est arrivé là en partie parce que d'abord, Luc il a décidé qu'il voulait rejoindre cette équipe. À l'époque, j'ai dit, mais pourquoi tu veux rejoindre cette équipe? Tu es déjà bien doué dans le service. Mais Dieu, il avait d'autres intentions et je pense que c'était pour me parler aussi. Et c'était le seul endroit, en fait, qui avait la capacité à cette époque-là. C'était le moment où Simon était malade et qui pouvait nous accueillir. Donc, c'est là qu'on a rencontré 2 personnes qui m'ont marqué. Zoe Joy, c'est la première. Et l'autre, Sam. Zoe Joy, j'avais déjà croisé quand j'avais 15 ans, tout au début de ma vie chrétienne. Elle mesurait 1m80 au moins, et elle était une personne assez large. Tu ne pouvais pas voir Zoe Joy. Mais quand je pense à elle, je pense de son cœur qui était encore plus large que son stature. Elle était remplie par l'amour de Jésus. Elle ne cessait pas de parler de Jésus. Et mettait en pratique cet amour avec les personnes autour d'elle. Les personnes dans son équipe, les personnes dans l'église, les personnes dans les rues. Si elles étaient à côté de Zoe Joy, elles sentaient aimées. L'autre Sam était une jeune fille, une jeune femme petite, elle avait une douceur, une empathie, un amour avec les personnes, pour les personnes sans abri, et une force discrète qui lui permettait de sortir à 4h, 5h du matin, hiver comme été, sous la pluie, sous le, pas forcément le soleil, pour rencontrer les gens qui vraiment étaient dans la rue, avant qu'ils se dispersaient pour commencer leur journée. Et pour les aimer, quand ils n'auront pas senti la mort autrement. Ils ont compris, ces personnes dont je parle, je pense, le verset de Matthieu 25, 40. Chaque fois que vous faites cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ces 3 personnes, ils avaient une manière exceptionnelle de montrer leur amour pour Jésus, par l'amour qui donnait aux personnes autour d'eux. La dernière personne que j'ai envie de parler, c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré. J'ai étudié sa vie dans les cours d'éducation religieuse en Angleterre. Et c'était que plus tard que j'ai pu réfléchir davantage sur comment elle a pu faire ce qu'elle a fait. Née en 1910, dans une ville en Macédonie, elle a grandi avec une maman qui aimait bien partager les repas avec les gens autour d'elle. À 18 ans, elle est partie en Irlande pour rejoindre les sœurs catholiques. Son but était d'être missionnaire. Après 1 an, elle est partie en Inde pour apprendre le Bengali. Elle parlait couramment 5 langues, anglais, albanien, serbo-croate, bengali et hindi. Alors c'est qui? Ouais. Justement. À 21 ans, elle est devenue sœur. Elle a travaillé 15 ans en tant que prof d'histoire et géo. Et c'était que plus tard, quand elle avait 36 ans, qu'elle a reçu un appel d'aller servir les pauvres. Notamment les plus pauvres des pauvres dans les taudis. Pendant les prochaines deux décennies, elle a établi une maison pour les lépreux, une maison de retraite, une clinique familiale et des cliniques mobiles. Donc pourquoi elle a pu faire ça? J'aimerais partager trois de ces citations pour nous aider à voir. La première, le manque d'amour est plus difficile à enlever que le manque de nourriture. Deux, ce n'est pas ce qu'on fait, mais la quantité d'amour qu'on met dans l'action. Ce n'est pas combien on donne, mais la quantité d'amour qu'on met dans le donner, ou dans le don. Numéro 3, ne cherche pas à faire des grandes choses, mais plutôt petites. Plus que c'est petit, plus grand doit être notre amour. Donc, elle a compris l'importance d'amour et l'amour mis en pratique dans le service des autres. On peut dire qu'elle a mis en place le verset Jacques 1, 27. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, est ceci. De prendre soin des orphelins et les veuves dans leur détresse. Et là, je pense qu'on pourrait ajouter aussi les personnes qui ont besoin particulièrement d'être aimées. Donc, pour reprendre l'idée de l'imitation, Paul a écrit à l'église en Corinthe. Il dit, en effet, même si vous avez 10 000 mètres dans le foie en Jésus-Christ, vous n'avez qu'un seul père. En anglais, ça dit peu de pères. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite à suivre mon exemple. Autrement dit, à m'imiter. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miennes, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Donc pourquoi Paul il encourage les personnes dans l'église à Corinthe de lui imiter? Et pourquoi il a besoin de l'aide de Timothée? D'abord, par rapport à Timothée, je pense, c'est une petite réflexion, c'est parce qu'en fait, c'est plus facile à imiter quand les gens sont autour de nous. C'est plus facile à imiter les gens qu'on rencontre, par exemple, un modèle comme Mère Teresa. Et Paul, bon, en tant que leur père spirituel, il avait vraiment une vie digne d'être imité. Dans le livre d'Hébreux, il y a deux versets qui nous demandent d'imiter les personnes. Le premier, c'est pour le foi et la patience, en Hébreux 6, 12. Et le deuxième, c'est les responsables pour leur foi. Ici à Connect, il y a une richesse des personnes qui ont des qualités à imiter, dans la douceur, dans la patience, dans la foi et dans l'amour. Nous sommes tous différents, avec des points forts, les points faibles. Et je pense qu'on peut tous en dire dans l'imitation. Donc je vous encourage à demander Dieu qui vous pouvez imiter à Connect. Dans quel domaine a-t-il envie que tu grandis? Qui a des capacités bien développées déjà, qui peut servir comme un modèle pour vous? Et on est tous qualifiés. Essayez de passer du temps en direct avec eux. Mais sois prêt. Parce que quand on voit Jésus qui dit, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même, il y a forte chance que l'avancée se fera dans le service. Voilà.
Merci, Kat. Waouh. Eh bien, je vais appeler Christelle. Christelle, moi, j'ai envie de t'honorer pour ta passion pour le Seigneur et merci pour ton zèle pour lui et ce côté prophétique que le Seigneur t'a donné. Donc, que le Seigneur te bénisse.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, il y en a que je n'ai pas vu là tout à l'heure. Je voudrais remercier Olivier et Mathieu qui me donnent l'opportunité d'apporter quelques mots cet après-midi. Merci pour votre confiance. Alors, sans plus tarder, je voudrais rentrer dans le vif de mon sujet. Je ne sais pas si vous savez quelle est la première peur la plus citée dans le monde. La première peur que l'homme rencontre. Vous savez ? C'est parler en public. La deuxième peur, c'est la mort. Alors, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous parler de la peur de parler en public, hein, puisque je suis en train de l'affronter en ce moment même. Mais je voudrais vous parler de la mort. Et pour introduire ça, je voudrais vous raconter un petit bout de mon témoignage, en fait. Moi, concrètement, j'avais peur de la mort. J'étais angoissée par rapport à la mort. En fait, je n'avais pas peur de comment j'allais mourir, quand j'allais mourir. Mais en fait, j'avais peur de ce qui allait se passer après la mort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais été enseignée, on m'avait dit, on m'avait parlé des choses de Dieu, etc. Et je savais que si je n'étais pas réconciliée avec Dieu, si je n'avais pas fait la paix avec lui, eh bien, lorsque je mourrais, je serais séparée de lui pour l'éternité. Alors, vous me direz, ben, peut-être que tu avais cette conscience-là parce qu'on t'avait dit toutes ces choses. Mais non. Chaque être humain pensera au moins une fois dans sa vie à l'éternité. Pourquoi ? C'est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11 dans la Bible. Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité pour qu'à un moment donné ou un autre, eh bien, on s'interroge, on se questionne. Je voudrais prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà donné cet après-midi, Seigneur. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci de répandre abondamment ton amour. Je prie que les écailles des yeux tombent maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que les cœurs soient réceptifs. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, je veux déclarer qu'aujourd'hui est un jour de salut. Amen. Amen. Alors vous l'aurez compris, je ne veux pas parler de la mort. C'est-à-dire le fait de cesser d'exister, hein, le fait de cesser de respirer. Mais je voudrais vous parler de la mort spirituelle. L'homme peut être en vie, marcher, respirer, être en mouvement, mais il peut être mort spirituellement. La mort spirituelle, en fait, c'est tout simplement être séparé de Dieu. Sur la terre, présentement, mais pour l'éternité. Être coupé, séparé de sa présence. C'est le contraire de la vie spirituelle. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » Qu'est-ce que c'est que le péché ? Ça vient de l'hébreu, j'ai fait des recherches pour vous, pour moi aussi. « Chata », ça veut dire, je trouve que c'est très parlant, « ceux qui manquent le but ». Le péché, c'est ceux qui manquent le but. Et ça vient aussi du grec amartano, qui veut dire erreur, faux état d'esprit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le péché, ça nous fait aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Ça nous fait manquer le but, ça nous fait manquer la cible. Et en plus, dans cette marche, on a un faux état d'esprit. On est dans la confusion, dans le trouble, dans l'erreur, dans le mensonge, sans en être conscient. Et on peut continuer comme ça jusqu'à notre mort. Le péché, comment est entré dans le monde ? Il est entré dans le monde par la transgression, par la désobéissance d'Adam. Et tous les hommes, jusqu'à ce jour, nous avons été infectés. En fait, quand Dieu il a créé Adam et Ève, il les a placés dans un magnifique jardin. Et lui, son plaisir, son bonheur, c'était de se promener avec eux dans ce jardin, de discuter, d'échanger, de rigoler. Il y avait une relation, une proximité. Il leur avait juste demandé de respecter un commandement. Et malheureusement, cette désobéissance, eh bien, elle a fait rentrer le péché dans le cœur de l'homme et elle l'a séparé de Dieu. Le péché, c'est l'origine de la séparation entre Dieu et les hommes. Donc le péché, il conduit à la mort. Spirituel. On peut être mort spirituellement, même si on est né dans une famille chrétienne. Même si on vit actuellement dans une famille chrétienne, si on est entouré de chrétiens, si on a été enseigné dans une religion, une certaine forme de spiritualité, ou même qu'on fréquente une église. Vous pouvez être assis aujourd'hui dans cette salle et être mort spirituellement. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Lorsque Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a dit ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Une autre version dit, changez radicalement. Tout à l'heure, on a dit que le péché, c'était manquer le but. Et là, en fait, moi, quand je lis ça, radicalement, ça me fait penser à... Je change de direction. Je vais dans la direction opposée. Je change de cap. Changez radicalement, car le royaume de Dieu s'est approché. Et le royaume de Dieu, il s'est approché en la personne de Jésus. C'est Jésus qui s'est approché des pécheurs. Et son message, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. C'est par son amour, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous pousse à la repentance. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, amen, et qu'elle l'ait en abondance. » C'est pas une petite vie en toc hein, que Dieu nous offre, une petite vie de pacotille. C'est une vie abondante. Amen. Dans le verset 11, Jean 10, verset 11, il dit, je suis, Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Les amis, bientôt on va fêter Pâques. La mort et la résurrection. Pour nous chrétiens, que nous puissions encore réfléchir à cette œuvre de la croix. Tout à l'heure, on a chanté ce magnifique chant. Moi, ça me fait tout le temps chialer. Je sais pas, c'est... Et pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Je voudrais vous lire Romains 5, verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Tout à l'heure, on a dit que le péché d'Adam a infecté l'humanité. Sa transgression a infecté l'humanité. Le péché est entré par un seul homme. De même, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Amen. C'est quoi cet acte de justice? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'œuvre de la croix. La mort et la résurrection de Jésus a justifié tous ceux qui croient en lui et le reçoivent comme sauveur et Seigneur. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions séparés de Dieu. Mais la grâce est venue jusqu'à nous. Le royaume de Dieu s'est approché et s'approche encore de toi cet après-midi. Le royaume s'est approché, Jésus s'approche de toi. Nous étions morts à cause de nos péchés, mais la grâce est venue par Jésus-Christ et a été révélée au travers, comment Dieu a révélé son amour au travers de l'œuvre de la croix. Par la mort d'un seul homme, un juste, nous sommes réconciliés avec Dieu, avec notre Créateur. Si nous reconnaissons cette œuvre de la croix dans nos vies, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ça le message de l'évangile. C'est la base, c'est très simple. Nous sommes séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Mais celui qui confesse ses péchés et puis qui les abandonne pour suivre Jésus, il est pardonné. Et il est restauré aussitôt. Il est reconnecté à son Créateur et il commence à vivre une vie abondante. Je voudrais laisser ce verset sur votre cœur. Je donne beaucoup de versets parce que j'aime beaucoup les versets parce que c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a un pouvoir, elle est puissante. C'est parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu, sa parole, elle est créatrice. Et je veux vraiment semer ces paroles dans vos cœurs afin qu'il y ait quelque chose qui puisse être semé et poussé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est peut-être la première fois que tu entends ce message. Mais c'est peut-être pas la première fois. Et tu te poses des questions et puis tu réfléchis. Tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Pourtant, Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est écrit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un impératif. Soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas où on sera. Et c'est maintenant qu'on doit préparer son éternité. Et moi, je suis convaincue cet après-midi que si le Saint-Esprit a déposé ce message sur mon cœur, ce n'est pas pour rien. Je suis convaincue qu'il y a au moins une personne cet après-midi qui a peur de la mort. Il y en a peut-être même plus. Une personne qui a peur de la mort et qui a peur de l'après, surtout. Parce que tu sais que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, que ta vie n'est pas en règle. Mais cet après-midi, Dieu encore t'appelle avec amour à te réconcilier. C'est aujourd'hui le jour du salut. De toute façon, si Dieu te veut, tu n'auras pas d'autre choix que de le suivre. Et Dieu veut tous les hommes. Il a pourvu pour notre salut. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis.